Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Hein. On va naturellement revenir une dernière fois sur ce mondial de rugby. On connaît donc son dénouement, on connaît son épilogue. Hein. L'Afrique du Sud a remporté pour la quatrième fois de son histoire cette épreuve. On va naturellement en reparler tout au long de cette première heure. Et puis on retrouvera l'actualité du ballon rond avec notre ami Stéphane Desenclos dans la deuxième partie, hein, c'est-à-dire dans la dernière demi-heure. Alors je vais saluer ceux qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné dans cette immense aventure depuis donc le début, à savoir d'abord Julien Combes. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va, pleine forme?
Bah ouais, oui, on
s'est
pas
la prendre. Finale et puis le championnat a repris, donc on en reparlera.
Ah, ça enchaîne, il n'y a pas de répit, on y va, on est à fond.
Très bien. Et puis lui aussi a été avec moi de bout en bout dans l'aventure, c'est mon ami donc François Artigas. Bonsoir François.
Bonsoir à tous.
Ça va?
Oui.
Ouais, ça y est, une Coupe du Monde de plus
terminée.
Terminé.
Enfin,
ouais.
Non.
Ouais,
enfin.
Non, faut pas dire ça. Hein, voilà. Et puis bah, fidèle à la tradition, hein, on va recevoir un club ce soir, le club du Racing Club de
rugby.
Paris 15. Rugby Club de Paris 15, emmené par son président, c'est ça, Olivier,
oui, c'est
Coquet.
Olivier.
Bonsoir Olivier, ça va?
Oui, ça va très
bon,
bien.
Il vous a plu cette, ce mondial?
Oui, jusqu'à il y a 15 jours. Après, on a,
bah,
mis,
oui.
On a mis le couvercle sur la cocotte et on est tombé la page.
Allez, on salue celui qui avait promis de revenir. Il a tenu promesse, hein, comme J. Schmitt, il y a 15 jours. C'est l'arbitre, Thierry Cazalet. Bonsoir, Thierry.
Bonsoir, tout le monde. Ouais. Et puis, bon, ex-arbitre, parce
oui,
que...
Oui,
j'ai lâché. mais quand même...
Bah, tu auras beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui.
Oui.
Hein. On a beaucoup de questions à te poser sur l'arbitrage. Voilà. Et je vais saluer Laura. Ça va, Laura?
Salut Philippe,
ouais.
Bonsoir à tous.
Ouais, elle nous a
super.
Préparé un beau journal des sports, Laura.
C'est ça.
Hein, on parlera encore de ballon ovale d'ailleurs.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et puis on devait avoir Paul Gabrilag, mais Julien, il a eu des gros soucis hier dans le match de rentrée.
Oui, mais tout va bien.
Oui, ouais, voilà, ça va. Oui, mais enfin, bon, pas suffisamment.
Pour non, pour venir ce soir, il est vraiment désolé.
Ouais, ouais.
Il s'excuse. Et donc, oui, hier, il y a eu un match à Bayonne assez dur physiquement.
Mm-hmm.
Ça a laissé quelques traces pour pas mal de joueurs. Donc voilà, un peu
c'est
fatigué.
C'est incroyable quand même.
Comment?
C'est l'arbitre qui veut ça, non?
Ouais, ouais, c'est 7-8 semaines là, sans compétition. Donc c'est vrai que c'est voilà, les matchs qu'on a pu assister hier, un peu compliqués sur tous les terrains de France. Donc voilà, dur cette reprise.
Ouais. Enfin, il était désolé, mais il aura l'occasion de revenir. Il nous l'a dit dans la saison. En plus, il est né dans le 13e, donc il n'a aucune excuse. Voilà. Très bien. Allez, on va revenir une dernière fois donc, sur ce chapitre Coupe du Monde. Alors, on va d'abord commencer chronologiquement par la troisième place, l'Angleterre qui a battu l'Argentine 23-20. On s'y attendait un peu? Mais ça a été plus serré que prévu quand même. Hein.
Ouais, plus serré que prévu. C'était vraiment un beau match, j'ai trouvé. Voilà, très enjoué, avec des Anglais qui ont joué, justement.
C'était 26-23, pardon.
Oui, c'est ça, c'est
ouais,
ça.
C'est 26-23.
26-23, des beaux essais de chaque côté. Donc voilà, une première mi-temps plutôt bien menée par les Anglais. Et voilà, une révolte des Argentins qui ne sont pas laissés faire. Et voilà, c'était une belle partie.
J'allais dire, fidèles à leurs habitudes, les Argentins, parce que j'ai vu, ils ont souvent mal commencé les matchs dans ce mondial. Et puis, ils ont très bien fini à chaque fois. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah, contre les Gallois, c'est ce qui s'est passé. Et... Non. Franchement, moi, j'étais très content du rendu de cette petite finale. Et voilà, ça aurait pu finir en match nul parce que ça s'est joué dans les derniers instants avec une pénalité manquée par Nicolas Sanchez. Donc un match nul aurait été presque mérité de finir comme ça parce que je sais pas trop après.
Ah bah après on joue
s'il
la prolongation.
Il y a des prolongations
hein.
Oui, il y a des prolongations,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Donc
oui,
bah, bon, voilà.
Bon, c'est le problème mactisme et le réalisme anglais qui a fait la différence.
Mais ils ont joué quand même.
Ouais.
Il y a eu des belles actions offensives. Voilà, bon, avec un Owen Farrell aussi maître dans l'art de buter. Donc
il n'est pas aimé Farrell. Hein.
Hein,
on l'aime pas Farrell. Hein.
Bon, on l'aime pas. On l'aime
non,
pas.
C'est pas le public classif.
Quand il joue contre l'équipe de France,
voilà.
On l'aime pas. Mais bon,
c'est une tête de Turc.
Il a été plutôt efficace, aidé par les poteaux, mais donc lui très efficace, au contraire un peu des Argentins. Et
Bah, c'est la force des Anglais. Hein.
Justement,
c'est ça. Quand on dit le fameux réalisme et pragmatisme anglais, c'est ça. Hein.
Non, franchement, ils ont été une belle conquête, voilà, une belle défense, très agressif, voilà, avec un deuxième ligne là, qui fait, je sais plus, 24 ou 25 plaquages dans le match. Voilà, ils ont mis les ingrédients pour faire, pour bien finir cette Coupe du Monde. On se rappelle qu'au début de cette Coupe du Monde, les Anglais n'étaient pas forcément bien placés. Ouais.
Et les Argentins non plus. Hein.
Les Argentins, oui, mais quand même un peu mieux que les Anglais.
Ils s'étaient rencontrés en phase de poule. Hein, les Anglais l'avaient emporté plus largement, 27 à 10. Hein. Là, ouais. 26-23, c'est juste trois petits points. Quoi.
Non. C'est des matchs serrés. Et voilà, c'est encore le détail qui fait la différence. Là.
François, ce match, ben, t'as
chose
plus cette troisième place.
Chose due par rapport à Kate, parce qu'ils avaient promis à Kate Middleton, qu'ils avaient suivi depuis le début, de finir sur le podium. Donc ils ont fini sur le podium. Donc voilà, non, sinon c'était un match très agréable à suivre finalement.
Il va falloir se méfier quand même de cette équipe anglaise dans le tournoi. Là, ils vont sur leur lancée continuer.
Ouais. Alors, ils ont quelques joueurs anciens quand même, mais avec des jeunes prometteurs, dont cet arrière, j'ai oublié le nom, qui est vraiment très talentueux. Quoi qu'il arrive, ils ont quand même aussi des jeunes dans les équipes, justement de jeunes internationales, que ce soit moins de 18, moins de 20, avec du potentiel. Ce résultat va leur faire vraiment du bien, donc oui, attention au réveil des Anglais, je pense.
Et j'ai vu le calendrier, c'est le dernier match, hein, c'est au mois de mars, hein, c'est le dernier match, hein, donc ça sera peut-être
Et c'est
match...
pas le premier l'Irlande, c'est ça
Oui.
Le premier Irlande et dernier Angleterre.
Bon, donc là. Ça sera peut-être le match décisif pour la victoire et peut-être même un grand chelem dans le tournoi. Olivier, ce match, il vous a plu? L'Angleterre 3e, l'Argentine 4e, c'était des équipes pas forcément qu'on mettait dans le Caradas au début. Alors c'est vrai qu'ils ont eu une partie d'amour.
Tableau plus
un
facile
peu,
que les
ouais,
autres.
Voilà,
donc,
oui.
Non, le, c'est vrai que le match était agréable à regarder. J'ai pas d'avis technique sur la chose. J'aurais préféré que les Argentins l'emportent pour des raisons de principe.
La Grinta, c'est ça. Hein. Mais bon, ça n'a pas suffi. Hein.
Non.
Voilà. Ouais. Bon. Et puis, le lendemain, la finale. Donc, Afrique du Sud contre Nouvelle-Zélande. Victoire 12 à 11 de l'Afrique du Sud. Je l'ai dit, 4e victoire en Coupe du Monde. Hein. L'Afrique du Sud qui n'a jamais été battue dans une finale de Coupe du Monde. Deux fois, ils ont battu la Nouvelle-Zélande. Deux fois, l'Angleterre. Et sur les 4 Coupes du Monde qu'ils gagnent, ils en gagnent 2 en France. Voilà. Donc, Bon. C'était bien parcours de champion, Julien. Trois fois vainqueur d'un point, c'est pas innocent.
Non, c'est pas innocent. On en avait parlé. Je pense que là, il y a une vraie maîtrise du projet qu'ils ont voulu mettre en place justement pour remporter cette Coupe du Monde. Une stratégie très claire, très bien identifiée et bien gérée par le staff, de l'Afrique du Sud, et avec un effectif en fait, à tout poste, pléthorique, dans la qualité aussi.
De Clercq, il a joué tout le match, lui.
De Clercq, il a joué tout le match, mais bon, il ne fait pas le quart de finale,
il ne fait pas
la totalité de la demi-finale. Donc, il y a une vraie, rotation gérée par le staff qui a été très, très efficace, en fait, tout au long de cette Coupe du Monde. Et voilà, l'expérience, alors même s'il y avait de l'expérience en face avec la Nouvelle-Zélande, il n'y a aucun doute. Mais bon, c'est quand même, il y a 4 ans, c'est eux qui font la finale et qui la remportent, avec encore 14 joueurs qui ont commencé le match, qui ont été champions du monde il y a 4 ans. Donc une vraie maîtrise de tout, hein, des joueurs, du staff. C'est pas forcément logique, hein, il y a eu des faits de jeu qui ont peut-être... on le saura, de toute façon on le saura pas, hein, mais bon voilà, donc une vraie maîtrise.
Oui, en tout cas la Nouvelle-Zélande, il laisse quand même 5 points en cours de route. Hein.
5 points, une pénalité.
Une pénalité, une transformation.
Hein,
donc,
Non, c'est bizarre ce match. Bon, il est un peu bizarre avec déjà un carton jaune qui fait du mal. Puis ce carton rouge qui arrive très rapidement au bout de la 30e. Ça veut dire qu'ils ont fait presque plus d'une heure de jeu à 14, même s'il y a eu des cartons jaunes en deuxième mi-temps pour l'Afrique du Sud. Donc c'est à ce niveau-là, ça pardonne pas. Même avec tout l'envie, l'engagement qu'ils ont pu mettre, et ils ont mis un essai aussi, un superbe essai. Ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif.
Oui. Thierry, pour revenir donc sur ces deux matchs, on parlera d'arbitrage plus tard, donc Argentine-Angleterre, et puis donc cette finale royale, hein, sur le papier, on ne pouvait pas faire mieux. Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, bon, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire qui s'est imposée, mais c'est la plus solide.
Oui, alors d'abord, la petite finale. Effectivement, l'Angleterre monte.
La plus collective.
Ouais, ouais. La monte en. C'est pas l'Angleterre qu'on a mis 40 points au tournoi des destinations. Hein. C'est une Angleterre qui monte en
puissance.
En puissance, ouais. et les Argentins comme on les connaît, accrocheurs, et qui auraient pu aussi bien faire basculer le match. Bon, en ce qui concerne la grande finale, eh bien, la grande finale, là aussi, comme Julien le dit, à 14 contre 15, les Blacks sont vraiment accrochés. Effectivement, le tout ce qui est coaching, les remplaçants qui rentrent sur les par les coachs, je veux dire.
Le coaching.
Donc un très beau coaching. Par contre, encore là, mais on en parlera tout à l'heure sur l'arbitrage.
Oui, mais on va en parler.
Il y a la règle et il y a aussi y a le jeu. Et moi, on m'a toujours appris de
le jeu. Il y a beaucoup d'interprétations dans le rugby, mais voilà, enfin,
c'est très important parce que sortir. Sortir le capitaine en plus, de sur quoi sur un joueur via rouge, après ça leur fait mal, surtout le capitaine en plus qui est meilleur d'homme, qui est un super joueur.
Ouais. Donc, mais mérité, mérité quand
même. Quand même mérité.
C'est mérité, mais il y a autre chose.
On va en parler d'arbitrage.
On en parlera. Il y a le même geste ailleurs qui n'est pas soumis à rouge. Donc, et là je ne mets pas l'arbitre en cause. Hein. Ils sont quand même. Il n'y a pas que l'arbitre.
Il y a la vidéo derrière.
Il y a la vidéo, il y a les deux jeux de touche. Il y a tout. Hein. Ils sont d'accord. Et la vidéo surtout.
François.
Moi, je pense que le Sud-Africain qui avait le jaune aurait dû avoir aussi. Ce jaune qui se transforme en rouge, hein, c'était un peu deux poids, deux mesures. Hein, c'est ce qui se disait beaucoup ce matin à la réunion de, disons, du bilan de la Coupe du Monde. Alors bon, ça laisse un peu sur la fin, voir que l'équipe qui n'a pas marqué d'essai est championne du monde. Donc c'est un peu gênant. Et puis toujours
c'est
d'un
pas
point...
pas la première fois, hein, mais bon.
C'est pas la première
je crois
fois,
qu'il y a
mais...
que quand... je crois savoir qu'il n'y a que la troisième finale qu'ils ont gagnée où ils ont marqué des essais, les Box Lyon. Ils ont gagné toute leur finale sans marquer d'essai.
Voilà. Celle de 2007, il n'y avait pas Abana qui avait marqué
Non, je crois que c'était 15-9. C'est en 2019 qu'ils ont gagné, qu'ils ont marqué les essais.
De toute façon, c'est un peu frustrant. Moi, je reste sur ma faim, sur l'ensemble de ce mondial, parce que gagner l'écart, les demi et finales avec seulement un petit point, c'est quand même un peu gênant. Alors, est-ce qu'il va falloir changer les règles, revaloriser l'essai à 6 points, faire en sorte que les pays pénalités puissent pas être contestées par les joueurs adverses. Bon, c'est peut-être des pistes. Alors, je sais que la World Rugby réfléchit à de nombreuses améliorations pour rendre le jeu peut-être plus lisible pour le grand public, parce que c'est vrai que les décisions des arbitres, bon, après, les gens, c'est pas des spécialistes, mais c'est difficilement compréhensible quand on voit une faute qui est sanctionnée d'un rouge et une autre qui est sanctionnée d'un jaune.
Ouais. Toi, tu es déçu par l'ensemble de ce mondial on a vu quand même des matchs de très haut niveau.
Non, je suis déçu par la finale. Disons, le fait que ce soit
comme
les Springboks
qui
l'emportent. Ouais. Parce que je pense que sur le volume de jeu, les Blacks méritaient peut-être plus de l'emporter. Bon, maintenant, ça peut toujours se discuter. Hein,
Et même la France.
Alors,
la France.
Alors, Olivier et puis Julien, qu'est-ce que vous en pensez-vous? Bon, c'est vrai que de tout temps, les Box n'ont jamais été l'équipe qui a pratiqué le plus beau rugby, mais bon, souvent le plus efficace.
Oui, mais ce qu'on constate, c'est que tous les matchs se sont joués à peu de points.
Les équipes
étaient proches les unes des autres. Donc, il faut être précis sur un certain nombre de phases où les Box sont peut-être.
Et quand on a dit, quand on gagne trois fois d'un point, c'est pas innocent.
Non.
C'est un parcours de champion. C'était ce qu'on disait la semaine dernière.
Et puis même avec ça, on a quand même un peu des. Enfin, je pense qu'ils vont avoir quand même des regrets, la Nouvelle-Zélande, parce que
comme la France et comme l'Angleterre.
Non, mais ils ont un peu déjoué. Ils ont un peu déjoué dans cette partie-là. Moi, j'ai trouvé des choix qui sont pas forcément très bons. Beaucoup de jeux au pied rendus, même si les conditions étaient un peu compliquées. C'était pas le jeu des Néo-Z. Dès qu'ils ont mis du rythme et du mouvement, il y a eu des essais. Bon, un refusé parce qu'un en avant sur la touche. Mais voilà, ils ont un peu déjoué. Des choix aussi des pénales. Touche alors qu'il y avait des pénalités sûrement à prendre aussi.
Mais est-ce que c'est pas l'Afrique du Sud qui fait déjouer justement les adversaires?
C'est une grosse défense, une grosse organisation.
La première mi-temps, c'était compliqué pour les Blacks.
Non, mais la deuxième mi-temps, ils ont joué quand même à égalité, à 14-14.
Plus,
il y a eu deux
cartons
jaunes aussi du côté des Sud-Africains. Donc c'est un peu déjoué aussi.
C'est un mondial qui vous déçoit au niveau du jeu, au contraire, non? vous le technicien, vous êtes plus que nous dans le milieu, est-ce que finalement par rapport aux autres Coupes du Monde, bon, il y a eu quand même des matchs assez extraordinaires, niveau, d'une façon générale, est-ce que le rugby progresse avec une Coupe du Monde comme celle-là par rapport aux autres?
Ouais, après,
l'écart se réduit peut-être un peu avec l'hémisphère nord, qui a été en tête quand même dans les phases de poule.
Ça se réduit un petit peu. Après, moi, elle m'a plu parce que c'est vrai que les rencontres des Sud-Africains n'ont pas été forcément très, très spectaculaires. Mais bon, comme on a dit, c'est le jeu des Sud-Africains.
Ouais,
c'est,
de tout temps.
Ils fonctionnent comme ça. Donc, ils sont plutôt très, très efficaces. Ils sont champions du monde avec ce jeu-là. Voilà, maintenant, on a vu quand même des belles rencontres avec la volonté de jouer aussi. Les conditions aussi ont fait qu'on n'a pas pu forcément jouer. C'est aussi le fait de jouer en automne. Et ça peut être compliqué, même si on a commencé la Coupe du Monde avec.
Il faisait beau, il y avait un super soleil.
Mais voilà, il faut jouer aussi avec ça, c'est notre sport, c'est le rugby, c'est
et
un sport d'extérieur.
Et dès qu'on a été éliminé, il s'est mis à pleuvoir. C'est le hasard.
Non, il y a eu des vrais beaux matchs, voilà, avec aussi de très beaux essais, des équipes qui nous ont inspirés, qui sont.
Nouvelle-Zélande, Irlande, on en a parlé.
C'était magnifique.
C'est le match référence.
Ouais, magnifique.
Un des plus beaux matchs de rugby de ces dernières années. Hein.
Non, très beau.
Ouais, François ?
Le péché originel pour moi, c'est déjà les tableaux. Voilà.
Ah oui.
Je l'ai déjà dit à cette antenne. Bon, c'est les tableaux. Et puis aussi le fait que pour les quarts de finale, les arbitres, c'était les arbitres quand même des pays qui étaient encore qualifiés. Donc je trouve ça un peu dommage. Il faudrait faire une règle pour faire en sorte que les arbitres des quarts de finale, à partir des quarts de finale, soient de pays qui ne sont pas qualifiés. Alors après, on me dira toujours, c'est peut-être pas les meilleurs arbitres, etc. Mais enfin, avec la vidéo, avec tous les outils qu'on a maintenant audiovisuels pour revoir des actions, je pense que ce serait une bonne solution pour pas qu'il y ait des suspicions. Après, je ne dis pas qu'ils ont été malhonnêtes, mais qu'il n'y ait pas de suspicion de dire « Ah, il a favorisé telle équipe parce qu'il pense que l'équipe de son pays, elle sera dans meilleures conditions en affrontant telle nation plutôt que telle autre.
» Olivier, vous, il vous a plu ce mondial d'une façon générale au niveau du jeu?
Oui.
Est-ce que vous êtes enthousiasmé? Est-ce qu'il y a des matchs où vous vous êtes dit, on s'ennuie un peu?
J'ai eu la chance d'aller voir Irlande-Écosse et puis après Irlande-All Black.
Ah oui.
Donc, je pense que j'ai choisi deux belles affiches.
Ah oui, oui. Là,
je peux vous dire que on est allé en famille et on est revenu avec plein d'étoiles dans les yeux.
Alors François, justement, c'était le bilan ce matin de ce mondial. Tu allais donc à la Fédé.
C'est pas Fédé, c'est la Maison de Mutualité.
D'accord. Okay.
Où il y avait un des deux sièges du comité d'organisation.
Ouais. Donc c'était à la Maison de Mutualité. Là, au niveau des stades, affluence complète.
Près de 2,5 millions spectateurs, ce qui veut dire que c'est des taux de remplissage à 94%. Ce qui est quand même énorme.
Dans tous les stades.
Dans tous les stades. Ouais. Il y avait des stades qui étaient plus remplis que d'autres.
Oui.
Mais disons que c'est la moyenne. 94%, c'est la moyenne. Il y a eu 230 millions de téléspectateurs en audience cumulée en France, uniquement en France. Donc je pense, mais ils n'ont pas pu donner le chiffre ce matin, ça dépassera le milliard.
Alors justement, on parlait des audiences télé. Il y a eu encore des grosses audiences pour ces deux finales.
Absolument. La finale pour la troisième place, 5,7 millions. Ce qui est très bien, donc avec un pic à 7 millions. Donc TF1 en tête des audiences. Ils ont toujours été en tête quand ils diffusaient du rugby. De toute façon, c'était clair. Et puis la finale, 10,9 millions, avec un pic à 12 millions, 12,7, avec 50% de part d'audience. C'est-à-dire qu'un téléspectateur sur deux regardait du rugby ce soir-là. Donc c'est très satisfaisant. Et on peut penser que si la France avait été en finale, on pouvait arriver aux 20 millions.
Oui,
facilement.
Je pense
qu'on
serait arrivé aux 20 millions.
On ne le saura jamais, mais je pense que c'était possible. Mm-hmm. Alors aussi, il y avait 600 000 visiteurs étrangers. Donc pour cette Coupe du Monde, ce qui est remarquable, et ça représente 45% des billets achetés.
Ah oui, presque la moitié.
Des spectateurs sur deux étaient un étranger avec une affluence de 45% d'anglais et 8% d'irlandais.
D'accord.
Donc c'est des chiffres, tout le monde était content, sauf le petit bémol, enfin il y en a deux. Le premier, c'est sur les hospitalités. Donc, qui ne sont pas autant vendus qu'ils l'espéraient, mais quand même beaucoup plus que lors de la dernière Coupe du Monde au Japon. Et l'autre petit bon, bémol, c'est les sifflets du Stade de France en finale. Donc qui ont un peu assombri l'ambiance. Mais bon, c'est, voilà, c'est pour dire qu'il y avait deux petits bémols dans cette Coupe du Monde.
Oui. Julien, vous l'avez ressenti, vous, au niveau des clubs, on en a beaucoup parlé, cette ambiance, cette ferveur, bon, avec notamment cet écran géant sur la Concorde, quoi, qui a peut-être moins servi après. Quoi.
Non, mais partout, dans tous les clubs, on l'a vu en Ile-de-France, tous les clubs ont été mobilisés par cette Coupe du Monde. De nombreux clubs ont aussi monté aussi des écrans pour les matchs, surtout de l'équipe de France.
Bah oui.
Mais c'est un engouement national et même au niveau international. Donc, sans aucun doute.
Et 13% d'augmentation, c'est ce qu'a dit le président ce matin, des adhérents. Des adhérents, autant pratiquants
uniquement
qu'en éducateurs.
Mondiale, ouais.
Alors, 13% dans toutes les catégories, féminines, les jeunes, etc. Ouais. Et là, ils vont affiner ce bilan et ils espèrent arriver à 15, 16, voire 17%.
Ouais. Olivier, c'est le cas chez vous ?
Oui, c'est le cas. On est déjà sur les effectifs de juin de l'année dernière. On est au-dessus. Alors, il reste encore 10 mois de recrutement.
Oui, parce que, bon,
globalement, on va peut-être avoir... Enfin, le RC Pékin, c'est un gros club. Hein, on était 500 garçons sans fil l'année dernière, donc 600 licenciés. Et je pense qu'on va finir à 750 cette année.
Oui, parce qu'il y a tous ceux qui sont venus au moment du Mondial, mais il y a ceux qui vont venir après. Hein, ça va continuer.
Oui, ça continue.
Vous pourriez, c'est une question que j'ai posée aux autres clubs, vous pourriez refuser du monde manque d'infrastructures.
En fait, nous, on tourne autour d'un seul terrain. Donc, là, je commence à refuser. Typiquement, chez mes seniors, je peux plus prendre des débutants. Enfin, c'est compliqué. On a monté une troisième équipe pour donner du temps de jeu à tout le monde. Mais là, j'atteins les limites physiques du club. Et on a monté une deuxième équipe féminine. On engage nos cadettes pour la première fois en compétition. On va être à plus de on doit être à 270 enfants à l'école de rugby. Ça se sent beaucoup chez les U10, U12. On en a 70 enfants par catégorie. Bon, ça fait, voilà. Ouais. Donc on a fait un gros effort aussi. On a anticipé cette affaire en recrutant pas mal d'éducateurs. On était à 22 éducateurs il y a 2 ans, 35 l'année dernière. On va être à 45 cette année. Voilà. Donc on est aussi tenu de délivrer une formation de qualité. Voilà. On peut pas accepter 70 joueurs avec 3 entraîneurs. C'est pas possible.
On va en parler en détail après ce bilan. Thierry, donc. Ce mondial, il t'a plu d'une façon générale ?
Ce mondial était d'abord bien organisé, il n'y a pas eu de débordement.
Dans le rugby,
ça n'existe pas, mais le rugby l'a prouvé encore une fois. Je suis d'accord avec
François
pour ce qui concerne la désignation d'arbitrage en phase finale.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Mais. J'ai un bémol sur la fin de.
Alors justement,
j'ai regardé les matchs, j'ai revu un peu tout. C'était notre Coupe du Monde. Quand j'ai vu l'Afrique du Sud, c'est bien pour eux, ils ont bien joué aussi. C'est des matchs engagés. On a eu des bons matchs. On a des équipes comme le Portugal qui se sont révélées. Il y a eu des très très bons matchs, mais. On l'aura toujours, nous Français, je pense qu'on l'aura toujours en travers, moi en tant qu'arbitre, ancien arbitre.
Qu'est-ce que tu reproches à l'arbitrage
les arbitres ne sont pas malhonnêtes, je suis d'accord. Ils sont pas malhonnêtes, mais à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Personne ne veut prendre la responsabilité, que ce soit l'arbitre du centre s'appuyer sur la vidéo. Celui-là de la vidéo, il m'envoie la balle. Merde, je
Mais responsabilité vis-à-vis de quoi? De certaines fautes
Il y a des fautes, il y a des trucs qui ne sont pas.
Ça veut dire qu'on n'est plus laxiste vis-à-vis des Sud-Africains que.
Dans tous les matchs.
Oui, parce que les Blacks sont plantés.
Avec notre arbitre français, l'arbitre contre l'Afrique du Sud, France-Afrique du Sud. ils ont fait des fautes qui ne sont pas pardonnables à ce niveau-là. Je regrette, moi, tout à l'heure je parlais du jeu, mais d'abord c'est le jeu. L'intention, c'est une chose. Quand je vois le plaquage sur Dupont, on voit bien que quand même là, même si c'est involontaire, quand même le coup de tête sur le truc, il aurait pu s'en dispenser. Ça, c'est des fautes graves. Ça, c'est des fautes pour démonter un type. Mais à un moment donné, je fais voir la photo tout à l'heure, là, sur la finale, par exemple, le plaquage sur... bon, il est sanctionné, d'accord. Attention, on est dans une finale. Il faut savoir aussi doser. Hein. Il aurait pu foutre une finale en l'air. S'il sort les deux capitaines, mettons. Mm-hmm. Il joue à 14-14, et puis voilà. Mais bon, ça aurait été déjà plus équilibré.
Mais c'est quoi? C'est des questions d'interprétation? C'est quoi?
Oui, d'abord, le problème, d'abord.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas.
D'abord, la vidéo, elle doit être juste, à un moment donné. Ils doivent disséquer. Ils dissèquent, parce que tous les images qu'il y a.
Ils dissèquent, hein, quand même.
Ouais, ils dissèquent au maximum. Ouais, ouais. Mais la sanction doit être la même pour tout le monde. Et puis attention, ils sortent les cartons il y a quelques temps, les cartons rouges, ils ne sortaient pas en finale comme ça. Et il y avait des plaquages, bon, les règles ont changé, ont évolué, pour moi ils n'ont pas évolué, mais bon, les règles ont changé. Et il y a des cartons qui pourraient se dispenser.
Et c'est bien de cette histoire de carton jaune, on va sur la touche, puis on attend d'avoir éventuellement un rouge.
Pour moi, ça peut être un plus. Parce
c'est
parce
aussi
que...
déjuger l'arbitre.
Voilà. Oui, c'est déjuger l'arbitre, mais dans l'instant T, l'arbitre ne peut pas tout voir. Donc, dans l'instant T. Mais après, ils peuvent revenir en arrière et là, ils peuvent s'apercevoir, surtout sur un essai, ils peuvent s'apercevoir qu'ils ont fait une connerie ou qu'ils n'ont pas pris la bonne décision. Mais.
Après, voilà. c'est pas déjuger l'arbitre, hein, parce que c'est un carton jaune qui est mis.
Oui, mais certains disent.
Mais il y a des.
Non, mais c'est un carton jaune. C'est,
oui, oui.
Quoi qu'il arrive, il y a eu un carton jaune, de
mais,
fait.
Oui, mais enfin, il croit
pas. Et après,
ça
peut monter
alors,
en.
Mais il y a des arbitres.
Alors, il y a des arbitres qui se sentent un petit peu déjugés, peut-être, non?
Un arbitre qui arbitre.
Pourquoi il met pas le rouge tout de suite?
Mais parce que justement, il y a suspicion, il y aura peut-être des circonstances. Après, c'est vraiment. Excuse-moi Thierry, c'est important. On est quand même sur la notion de sécurité du joueur. Là, il y a des vraies actions de mise en danger du joueur. Maintenant, c'est l'interprétation et les circonstances, en fait, des gestes.
Et vous les voyez, les joueurs. Hein, les joueurs, des fois, dès qu'il y a un geste un peu haut. Il a pas eu mal le joueur, mais là, sur le dernier match en plus, sur le truc, je crois que c'est le 15 sud-africain, maintenant il fait à l'arbitre. Alors qu'il a pas du tout mal, hein, alors il prend à peine là, il le touche à peine, hein, et il incite l'arbitre à siffler une pénalité.
Oui, c'est comme un joueur de foot qui s'est un petit peu glissé, ça bon.
Mais sur les essais, pareil. Par exemple, sur un essai litigieux, souvent l'arbitre, il voit qu'il a essayé. Où il interprète qu'il a essayé, il va quand même encore demander la vidéo pour confirmation. Et souvent, le juge de touche, il a fait ça, il ne prend pas compte de son juge de touche qu'il peut faire demander la vidéo. Donc, perd de temps. Et moi, je trouve que la vidéo, c'est bien. Mais il ne faut pas trop l'amuser. Voilà.
Et puis après, dès que ça touche la tête, à un moment, c'est OK, il y a des circonstances, mais c'est qu'il y a eu un manque de maîtrise en fait, d'un joueur, du défenseur qui ne s'est pas maîtrisé dans
bien
son
sûr.
Geste.
Ça,
en fait.
Ça,
voilà, il s'est baissé, il s'est déséquilibré, mais il a touché la tête d'un joueur.
On peut dire ça aussi dans les rucks, quand ça rentre à plein fer, soit les types ils sont baissés, ça peut être tête contre tête, et ça arrive, ils ne le voient pas tout, ils le voient pas tout le temps, et souvent ça peut être un tête contre tête au moment où tout le monde rentre sur les rucks. Il n'y a pas de carton, ça fait partie du jeu, je veux dire.
Alors comment tu expliques là ce décalage de l'arbitrage? Est-ce qu'il y a deux visions différentes? On sait que dans le rugby, il y a beaucoup d'interprétations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup il y a des interprétations différentes?
Oui,
parce qu'à un moment, je me souviens, il y a un certain passé où on trouvait que les arbitres britanniques étaient trop rigoureux par rapport à des arbitres latins. Bon, ça a changé depuis.
Oui, mais déjà, il y a une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud.
Oui.
Déjà. Là, je suis un peu étonné par l'hémisphère sud qui sont plus sur les engagements vraiment physiques. Et que, bon. Mais moi, c'est le système vidéo qui doit être vraiment. Je veux dire, quand c'est blanc d'un côté, c'est blanc de l'autre. Il faut qu'il soit vraiment. On ne peut pas dire oui, mais là, il est plus bas, là, il est plus haut. Où c'est faux.
Où il a tapé.
Où il a tapé à ce moment-là. On prend la décision, comme à la finale.
Ouais. Hein,
mais à ce moment-là, l'autre après, c'est pareil, c'est la même décision. Même si c'est moins. Le choc est moins rude, ça doit être la même décision. C'est une finale, c'est une Coupe du Monde, et là,
Et tu trouves que, vous, placer, mais... que l'Afrique du Sud a été beaucoup avantagée parce que les Français se sont plaints, mais il n'y a pas que les Français. Voilà. J'ai lu que les Blacks étaient plaints aussi d'arbitrage.
Oui, 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 oui. Mais bon, déjà, l'Afrique du Sud, comme on dirait chez nous, hein, ils avaient une belle étoile au-dessus de la tête, toute cette Coupe du Monde, hein, terminée à un point à chaque fois. Bon, c'est le jeu, mais ils avaient une bonne étoile quand même avec eux. Je pense que les Sud-Africains, on les reprendrait. Ce ne serait pas le même match et je pense qu'on pourrait les battre. Et même si on avait rencontré les Blacks ça, à la finale, là, si on était passé, je pense quand même qu'on aurait battu les Blacks.
Bon, enfin bon. Allez, on va marquer une pause musicale avec les Rolling Stones, Star Me Up, et ensuite on va avoir notre ami Jean Abillou de France Télévisions, donc qui nous fera un petit peu le bilan aussi, lui, de son mondial. Allez, on va, je pense maintenant, avoir notre ami Jean Abillou au téléphone de France Télévisions. Jean, bonsoir.
Bonsoir, François.
Oui, merci bonsoir. En tout cas. Bonsoir. Oui, il y a François Artigas qui est avec moi. Alors, Jean, ce mondial...
Ah, pardon.
Oui, c'est pas grave. Ce mondial, comment vous l'avez vécu?
Ben, moi, je trouvais que c'était une belle Coupe du Monde. Oui. Après, on est partagé entre plusieurs sentiments. Belle Coupe du Monde parce qu'on a vu... On a vu des vrais beaux matchs. Je parle notamment du quart de finale Irlande-Nouvelle-Zélande. Il y a eu beaucoup d'émotions. Les matchs des Fidji, la victoire du Portugal. Puis moi, j'ai été sur des stades commentés à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, évidemment. Et c'était très festif quand je vois ce qui se passe au foot hier soir à Marseille. Bon, ouais. Là, on n'a rien vu. C'est festif. Les gens sont détendus. Les gens ont plaisir à se retrouver. Et c'était une vraie fête. De ce côté-là, c'est une belle réussite. Ouais. Après, on a un sentiment de frustration parce que l'équipe de France n'a pas été au bout pour X raisons.
Oui. Et le vainqueur, donc l'Afrique du Sud, 4 Coupes du Monde à son palmarès, c'est un beau vainqueur ?
Bah oui, c'est un beau vainqueur, oui, il gagne les matchs des phases finales d'un point, mais bon, il gagne, voilà, ça dépasse le cadre sportif quand on parle des Springboks d'Afrique du Sud. Moi, j'ai connu là, leur première Coupe du Monde gagnée en 1995 sous l'ère, je dirais, le règne Mandela, c'était sportivement, c'était moyen, mais après... ce qu'a vécu le pays, c'était magnifique, c'était émouvant. Donc voilà, alors après, honnêtement, j'aurais préféré que la Nouvelle-Zélande gagne, parce que dans le rugby que j'aime, je pense que le rugby que proposent les Néo-Zélandais, les All Blacks, est quand même plus attrayant. C'est vrai que le rugby sud-africain est fait de confrontations, de chocs, c'est parfois brutal, mais bon, à l'arrivée, ils gagnent. Ils sont habités par quelque chose qui font que, bon, 4 Coupes du Monde à leur... Alors actif, c'est quand même pas anodin.
Oui, François.
Oui, Jean, tu t'es régalé, et notamment avec les audiences de toutes les chaînes, hein, France Télévisions, TF1, M6. Là, vous avez
ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Il y avait un vrai engouement. Les audiences ont été excellentes, effectivement. Alors, c'est vrai que tant que l'équipe de France était en course, il y avait une ambiance autour des stades, même quand l'équipe de France ne jouait pas, et qui, l'équipe de France et les Bleus portaient un peu ce... Voilà, parce que je pense que tout le pays avait envie que les Bleus, que le 15 de France gagne pour la première fois une Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On a quand même, l'ambiance est un peu tombée quand même après l'élimination des quarts de finale, même s'il est en demi ou les finales, les stades étaient pleins, mais enfin... Le stand de France, en l'occurrence, était plein, mais bon, l'ambiance, un peu l'engouement est tombé. Les fanzones ont été fermées, il y avait moins de rassemblements festifs à droite et à gauche, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la loi du sport. Hein.
Oui, parce que, Jean, on avait le sentiment que c'était cette année, hein, l'équipe de France, c'était l'année ou jamais, quoi.
Oui, mais je crois que l'Irlande peut dire de la même chose.
C'est vrai.
Je crois que l'Irlande aussi, pour eux, c'était fixé cette Coupe du Monde 2023. Voilà, donc effectivement, pour l'équipe de France, on a une équipe extraordinaire qui avait des bons résultats depuis 2-3 ans, et effectivement, on avait les moyens. Mais bon, je pense que par le passé, il y a des équipes de France qui méritaient aussi peut-être des champions du monde. Je parlais de 95.
Oui.
Si politiquement, il n'y avait pas eu ce qu'on a vécu en Afrique du Sud, l'équipe de France aurait dû être en finale contre la Nouvelle-Zélande.
Oui. Tiens, une question de Julien Combes, du Stade français, que vous devez connaître. Julien, une question pour Jean Abiou.
Non, mais Jean, je pense au vu de ton expérience, là, donc par rapport à toutes les Coupes du Monde que tu as pu vivre, voilà comment tu vois évoluer un peu cette Coupe du Monde, voilà aussi l'évolution qu'il va y avoir aussi avec ce nombre d'équipes aussi.
24 équipes maintenant. Hein.
Ouais, 24 équipes. Comment tu vis tout ça, cette évolution-là ?
Ben, je pense qu'elle évolue dans le bon sens. Le fait de passer à 24 équipes, ça va réduire la durée de la compétition, d'après ce que je crois comprendre, puisqu'on aura, il y aura moins de matchs de poule, donc on aura des huitièmes de finale, je crois savoir.
Oui,
donc, je pense que ça peut être un bien. Bon, déjà, ça va intégrer quelques équipes, quelques nations de plus. Et donc, ça peut donner un peu plus de sel à cette Coupe du Monde. On évitera peut-être ce qu'on a vécu sur cette Coupe du Monde, c'est d'avoir, disons, que les quatre équipes majeures actuelles qui dominent, à savoir l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et la France. Bon, ben voilà, les quatre, ça aurait dû être les quatre équipes de des demi-finales. Bon, la compétition des poules a fait qu'on avait la France avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud avec l'Irlande, et donc ça a un peu cassé, je dirais, le déroulement des phases finales.
Et puis Jean, cette Coupe du Monde, elle a naturellement valorisé ce sport avec un afflux de pratiquants et pratiquantes dans les clubs auxquels vous rendez hommage dans votre émission chaque samedi, hein.
Oui, c'est vrai que on a fait quelques reportages justement par rapport aux retombées, l'impact de la Coupe du Monde sur le sol français. Effectivement, Bon, au niveau des licenciés, ça, depuis 2-3 ans déjà, on a senti une progression, notamment au niveau du rugby féminin. Mais là, avec, y a un impact aux Coupes du Monde qui est indéniable, avec effectivement des jeunes, et tant mieux, hein. Oui. Jeunes garçons ou jeunes filles qui viennent s'essayer à ce sport qu'on aime bien.
Oui, alors on va rappeler une émission qui date depuis 1991, hein, 10h05, 10h25 tous les samedis.
Bah, oui, elle date depuis du 1er avril 91.
Ouais, c'est ça.
Poisson d'avril. C'est, disons, début avril 91. Voilà, c'est une date un peu symbolique. Et elle dure, elle a été longtemps sur France 2 le dimanche matin à l'heure du petit déjeuner. Et là, depuis 2 ans et demi, elle a été reprogrammée sur France 3 à 10h, 10h05, je dirais, le samedi matin.
Ouais, c'est le rugby des terroirs, hein, le rugby qu'on aime, hein, genre.
Ouais, ben exactement, notre ADN, notre identité, c'est ça, aller voir les clubs amateurs, ce rugby de terroir. C'est de là que viennent tous les joueurs de l'équipe de France, que ce soit l'équipe de France masculine ou féminine, ils ont commencé dans des petits clubs, entre guillemets. Tous ne commencent pas dans des clubs qui ont une équipe en top 14.
Ce qui est remarquable, c'est que cette émission, ce type d'émission n'existe pas pour le football. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'émission, disons, sur le football qui parlerait des petits clubs. Et je trouve que c'est dommage. Et ce qu'il faut rappeler sur cette Coupe du Monde, c'est que les matchs de l'équipe de France de football ont fait de moins bonnes audiences. Alors, l'équipe de rugby masculine, c'est normal, mais même que d'autres équipes, hein, parce que des matchs de qualificatifs pour l'Euro 2024 ont fait 6-7 millions, alors que là, la finale de la Coupe du Monde entre deux équipes, qui n'étaient pas des équipes françaises, a fait quand même 11 millions, avec des pics à presque 13 millions. Donc c'est aussi remarquable. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un désengagement du téléspectateur lambda pour le football au profit du rugby? Je pense qu'il est peut-être trop tôt pour se prononcer, mais je crois que c'est une tendance, surtout avec les événements d'hier et la violence dans le foot.
Oui, et puis le rugby, ça se consomme très très bien. À la télé, on voit des choses que peut-être au stade, on ne voit pas. Bon, on n'a pas l'ambiance devant son... Mais bon, on peut se réunir entre amis, comme j'ai pu le faire. Donc, on apprécie aussi. Mais c'est vrai que la télé, c'est apprécié. Mais prolonger un petit peu la question par la comparaison avec le foot et le rugby de terroir qu'on aime, il y a quelque chose que le rugby doit surtout garder. C'est qu'à n'importe quel niveau, même au plus bas niveau du rugby, on peut être champion de France.
Absolument.
Et recevoir ce fameux bouclier qui s'appelle pas le Brennus, mais ce bout de bois magique que toutes les équipes veulent soulever. Et ça, c'est... Bon, voilà, quand je vois... Alors maintenant, c'est plus 4e série, c'est Régional 3, mais Régional 3, 2, 1, en remontant, on peut être champion de France. Ce qui n'existe dans aucun autre sport, en l'occurrence, le football.
Bon, Jean, merci. Vous allez maintenant enchaîner sur le tournoi, puis après, il y aura les Jeux, hein, donc l'été prochain.
Ben oui, il y a le tournoi qu'on attend. Il y aura le tournoi féminin au printemps, et puis après les Jeux, je vais avoir la chance de pouvoir commenter le rugby à 7. J'ai découvert ça, je dirais entre guillemets, parce que j'ai eu l'occasion et j'ai eu l'honneur de pouvoir aller commenter avec Vincent Clerc le tournoi 7 à Tokyo, et donc là on va renouveler l'expérience, je dirais, pour les JO de 2024 à Paris. Ça va être un moment fabuleux, si en plus Antoine Dubon fait partie de cette équipe de France à 7. Voilà, et puis en plus, après, je vais enchaîner avec les Jeux paralympiques, et là, ça me touche directement. Enfin, ça me fait vraiment plaisir, ça allait commenter le rugby fauteuil. Donc, je vais un peu découvrir, mais je crois que c'est bien de le faire aussi.
Bah, vous savez que l'équipe de France a terminé quatrième, hein. C'était tout près d'ici.
Exactement, hein. Après avoir été l'année dernière à Cardiff, championne d'Europe, dont l'équipe de France rugby fauteuil sera candidate à une médaille, on espère qu'elle sera d'or.
Très bien. Merci beaucoup, Jean, en tout
cas. Merci, Jean.
Merci.
Avec
Jean.
Plaisir. Allez. Bonne continuation, les
voilà.
amis.
Merci beaucoup, en tout cas. Voilà donc pour notre ami et confrère Jean Abiou. Alors, il y avait beaucoup de conversations pendant la pause musicale sur l'arbitrage. Ça y est, c'est bon, c'est réglé, Thierry, tout va bien.
Acceptez ça. La communion est terminée, on ne parlera plus. Maintenant, comme on dit, à eux à travailler et à régler ces petits points,
petit point de, ouais.
Que, de sur ce que je sur ce qu'a dit Thierry là même pendant la pause musicale, vous êtes d'accord avec
Oui, et puis c'est ça fait pas longtemps non plus aussi qu'on utilise aussi cet arbitrage vidéo.
Plus que dans le foot.
Oui, un peu plus que dans le foot. Ouais. Donc il faut apprendre aussi à maîtriser aussi pour les arbitres cet outil-là. Je pense que c'est pas évident. Les enjeux étaient forts aussi. Enfin, sur une Coupe du Monde, les enjeux sont très forts. Et là, il y a des vraies responsabilités aussi à assumer. Mais je pense que ils les ont assumées, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est maintenant faire le bilan.
Oui.
Trouver les évolutions aussi possibles à tout ce qui a été proposé. On est un des rares sports aussi qui évolue aussi avec la pratique. On tente des choses, on fait des choses, aussi dans les équipes de jeunes, des coupes du monde aussi de jeunes. On apprend aussi à faire des nouvelles règles aussi, à mettre en place des nouvelles règles. Donc voilà, maintenant il faut peut-être un peu plus de compréhension du grand public. Je pense que ça va être important. Expliquer les fautes.
Je pense que c'est une priorité, c'est que l'arbitre explique ouvertement les fautes pour que le grand public et le téléspectateur.
C'est ce qui se fait au football américain.
Oui, et le foot, ça serait pareil pour vous.
Et puis avant, je crois que c'était marqué sur les écrans aussi le type de faute qui se faisait. Là, je ne crois pas qu'il s'était noté.
Ça dépend. Justement, ils ne le font plus parce que ça remonte à pas mal d'années déjà. Avant, même un top 14 ou ça, on faisait voir les ralentis, tout ça. Ils ne le font plus parce qu'en fin de compte, comme pour la finale, la même faute ne peut pas être sanctionnée de la même façon. Donc, d'où le brouhaha du public, la colère, et donc ils ont arrêté ça. Et puis aussi. Le mental de l'arbitre, parce que j'ai pas vu la même faute.
C'est noter la faute, quel type de faute, pourquoi il y a eu faute. Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire, est-ce que l'arbitre a le temps de le faire, ou c'est une personne tierce qui l'explique au grand public? Je pense que ça aiderait aussi à éviter peut-être des sifflets de personnes qui connaissent aussi peut-être moins l'activité aussi rugby. Je pense qu'il y a une forme de pédagogie à avoir en fait au niveau des arbitres.
Olivier, donc on revient à votre club. Donc vous avez dit qu'il va falloir gérer maintenant les afflux. Alors, vous avez combien de licenciés à l'heure actuelle?
Au jour d'aujourd'hui, 635, non, même plus que ça, on doit être 650 joueurs.
Comment ça se répartit au Rugby Club de Paris 15e?
Alors, on a 187 seniors au jour d'aujourd'hui.
Ah, quand même.
Donc on a trois équipes. Chez les féminines. Il y a 105 filles au club, alors ça comprend toutes les filles, même de l'école de rugby. Donc on a deux équipes, on a créé une équipe à 10 cette année pour donner du temps de jeu à tout le monde. Une équipe junior, une équipe cadet, on monte des matchs amicaux pour les groupes, parce qu'en fait quand on a quand même 50 joueurs, il n'y en a que 23 qui jouent le week-end, donc il faut aussi occuper les autres. Et de manière saine, et comme on a pas mal de débutants, c'est difficile de les engager sur des championnats type Régional 3 ou d'autres clubs, eux, n'ont qu'une équipe et ont des joueurs affûtés. Quand on a des débutants, c'est quand même compliqué. Et puis à l'école de rugby, on doit être 265 aujourd'hui, donc ça fait pas mal de monde.
Donc sur un seul terrain?
Oui.
Hein, parce que bon, vous n'êtes pas un club omnisport, vous êtes carrément que dans le rugby. Sur un seul terrain? Il est où dans le 15e, c'est ça?
Il est derrière l'Aqua Boulevard, dans le 15e.
Tout le monde arrive à trouver son créneau? Parce que ça doit être compliqué quand même.
Notre directeur sportif n'a plus de cheveux. Et en plus, on le partage avec le football américain. Donc, ça fait partie de l'âme du club aussi.
Quand vous faites des matchs en compétition, donc vous enchaînez les matchs sur le terrain? Samedi, dimanche, quoi.
Oui.
Bon. Julien, vous avez rejoint le club, vous?
Comment?
Vous avez rejoint le club, non?
J'ai rejoint un club.
Comme ça.
Non, je m'occupe des seniors du RCP15. Là, j'entraîne et je suis ravi.
C'est l'antichambre du Stade français, comme ça.
Mais je n'entraînais pas d'équipe là, depuis deux ans.
Fallait garder la main, alors
en du Stade français. C'est un super club, très accueillant. Avec aussi des vraies valeurs aussi, avec un vrai groupe de seniors qui jouent ensemble depuis un certain temps. Et puis comme l'a dit Olivier, ils ont su s'adapter par rapport aux conditions. Et c'est une vraie famille du rugby. On a parlé du sport amateur avec Jean. On est complètement dedans. Et puis ça marche, ça fonctionne. On fait avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est très très bien. Et moi, je suis très heureux.
Donc impossible de vous rejoindre maintenant, c'est plus la peine. Hein. C'est plus la peine qu'on dise que c'est possible.
Juste pour les débutants seniors, ouais. Parce que là c'est, ça devient compliqué, ouais. 187 joueurs sur un seul terrain, on s'arrache les cheveux. Ouais. Non mais par exemple chez les filles, à l'école de rugby, c'est encore ouvert, il n'y a pas
donc,
de soucis.
Ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous voir, il y a un site internet,
sur le site internet,
ça coûte combien?
Il y a toutes les informations. Alors ça c'est
top secret.
C'est
important. Non mais ah bon?
Non.
Bah, non mais c'est important pour les parents.
Oui, oui, non mais après, enfin... Pratiquer le rugby à Paris, c'est pas facile.
Ah oui, c'est pour ça.
Les subventions pour les clubs, elles sont ouais. assez limitées. Ouais. Et en plus, la mairie de Paris nous loue le terrain. Donc,
oui, je sais. Non,
voilà.
Je sais.
Donc,
tous les clubs sportifs nous le disent.
Donc, le budget du club, ouais. il repose sur les cotisations. Ouais, oui. Voilà. Mais par contre, on est, même si on applique des cotisations assez élevées, on a.
C'est combien
C'est 350 euros pour les
clubs
de rugby.
D'accord.
Mais par contre, on est à l'écoute des voilà on sait tout de suite qui sont les familles qui ont des problèmes et on a des tarifs adaptés en fonction des familles voilà.
Donc les résultats sont bons finalement pour vos clubs d'une façon générale pour vos équipes engagées en championnat malgré tout
oui ça se passe bien là.
Et puis vous avez des rendez-vous importants en dehors des championnats dans une saison.
On a
un tournoi interne, un club, une grande fête ou
un tournoi de fin d'année, mais qui risque d'être mis en cause par les Jeux Olympiques cette année. Donc on va essayer on va se recaler une date. Et puis il y a plusieurs fêtes qui tout au long de la saison. Là, on va faire une fête pour Noël et puis.
Est-ce que vous. Oui.
Non, et puis après aussi une section aussi qui s'est montée senior.
Ah oui, c'est vrai.
La première en Ile-de-France, là, c'est quand même.
Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait la première, parce que ça, c'est merchandising, ça. Non, mais on a ouvert une section de plus de 55 ans.
Ah ben quoi.
Voilà,
oui.
Pour, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris.
Ils vont battre Large. Voilà. Bah, Large qui était là la semaine dernière.
Et du coup, ça marche super bien. Il y a une super ambiance. Les dirigeants du club s'y sont mis. Alors, c'était censé être que l'été, mais on va maintenir ça de manière permanente l'hiver. Et on y trouve des bénévoles, parce qu'en fait, ce sont des retraités qui ont du temps à donner pour le club. Et voilà, je me suis trouvé un trésorier, quelqu'un qui tient la buvette.
Ouais. Et vous êtes président depuis combien de temps?
Moi, je suis président depuis un an et demi, là.
Ouf, voilà. C'était une vocation de devenir président, ou ça s'est fait, je dirais, comme on dit en politique, poussé par les circonstances?
C'est tout à fait ça.
Ouais.
Non, mais en fait, moi, je suis militaire et j'aime beaucoup encadrer les jeunes et puis le rugby c'est un peu comme l'armée en fait, c'est de la cohésion et des pots,
toutes les valeurs
et voilà, donc voilà, je m'y retrouve bien. Non, c'est en fait j'ai été porté par mes garçons. Moi j'ai jamais fait de rugby. Mes garçons ils ont commencé à 7-8 ans, après ils sont allés au Stade Français, c'est là que j'ai rencontré Julien et puis de fil en aiguille j'ai été dirigeant cadet, junior, et puis après ça c'est
donc il a fallu le débaucher. Vous avez parlementé avec Max Guazzini. Lâchez-le-nous. non je blague, hein.
Non, ouais, ouais. C'est fait,
non,
ça,
je blague. Ouais. Bon, les couleurs du club.
C'est jaune et noir.
Jaune et noir, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Pourquoi il y a.
Voilà,
vous ne savez pas.
Non,
il y a une histoire.
Non,
comme la panthère, comme
c'est
le
historique,
départ.
C'était noir au début de la création du club, c'est resté.
D'accord. Bah, écoutez, donc le mondial pour vous, c'est très positif, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, ça crée une bonne ambiance au sein du club.
Est-ce que vous participez aussi à des actions sociales? Parce que je sais que beaucoup de clubs le font. Donc voilà.
Donc on s'y est mis fortement depuis l'année dernière. Donc on mène des actions dans les écoles depuis l'année dernière. L'année dernière on a touché dans le 15e 17 écoles, 450 enfants pour qui on a organisé pour les écoles, tout ça a été fait gratuitement par le club. On a fourni des éducateurs. Ça s'est terminé par un tournoi de fin d'année avec 450 enfants. Et cette année, ça marche tellement bien et les écoles viennent nous voir spontanément pour avoir des cours ou former leurs professeurs pour être autonomes. Donc cette année, on va toucher 2000 enfants dans le.
C'est bien.
Et ça prend tout seul. Vous avez une école, ça doit être l'école Branchon du 15e, qui s'est proposée spontanément d'aller faire un AK.
Un AK, voilà.
Ouais. La mairie de Paris les a pris place de la Concorde, là. Voilà. Donc ça prend bien.
Mais vos pratiquants et pratiquantes, ils viennent que de Paris ou ça va beaucoup plus loin? Je suppose que ça va. Dépasse le cadre de Paris.
Nous, le 15e, enfin, là où on est situé, on est assez bien desservi, en fait.
Bah oui.
On a 20% de nos licenciés qui viennent d'ici les Moulineaux. On touche Vanves.
C'est à côté, donc c'est pour ça que.
Puis le 15e, en termes de population, c'est la population de Bordeaux. Donc on n'a pas trop de problèmes, on est bien desservi, on n'a pas trop de problèmes pour recruter. Voilà.
D'accord. Bon, Julien, c'est une belle aventure en tout cas.
Non, non, c'est très. Moi, je suis très, très content, je l'ai dit. Bon. On avance petit à petit.
Bon, bah, c'est bien. Vous savez qu'il y avait une journée de championnat donc, qui est repartie. Hein, la Coupe du Monde a à peine terminée. Ça ne s'est pas très bien passé pour le Stade français. Hein.
Non, une défaite à Bayonne. Voilà, mais Bayonne qui est invaincu quand même depuis une vingtaine de matchs à domicile. Donc, c'est quand même une belle écurie qui avait fait une très belle saison l'année dernière. Donc non, un peu compliqué. Il a une réception de Castres samedi prochain à Jean-Bouin. Donc venez tous, hein, vous êtes voilà, 17h. Donc un match déjà qui va être un peu sous tension pour les joueurs du Stade français.
Et puis Paul sera c'est bon.
Il va être sur le terrain.
Ouais, il sera soigné, il sera guéri, c'est bien.
Non, il sera là.
Alors Laura, justement, les résultats de cette journée, c'était la quatrième journée du top 14.
Oui, hier c'était du coup donc, la quatrième journée du top 14. Le stade français a affronté Bayonne, donc vous l'avez dit, a échoué 3-16, la première défaite depuis le début du championnat. Elle se place pour l'instant à la quatrième position avec 3 matchs gagnés sur 4, totalisant 13 points. Juste devant elle, avec un seul point d'écart seulement, 3 équipes, Pau, Castres et Racing 92 avec 14 points pour 3 matchs gagnés sur 4. Le Racing 92 a gagné son dernier match hier face à Montpellier, 19-16. Et pour l'instant, c'est Perpignan qui occupe la 14e et dernière position avec 0 point et 0 match gagné. Hier, c'était aussi la 9e journée du Betclic Elite Basket.
Pour le basket,
donc le championnat de France. Samedi, Paris a affronté Chalon-sur-Saône et a gagné 85-70 points. Hier, l'équipe de Nanterre échoue face à Cholet pour un score de 67-70. Niveau classement, pour l'instant, Paris se hisse à la 2e place avec 77,8% de victoires, juste derrière Monaco qui a remporté 100% de ses victoires. Pour Nanterre, elle se situe actuellement à la 7e position avec un taux de 55,6% de victoires. Et pour Boulogne-Levallois qui jouera son prochain match le 7 novembre, contre le Portel, il se place en dernière position avec un taux de 0%. Et puis côté volleyball, ce week-end signé aussi la 2e journée de Marmara Spike League 2023-2024. L'équipe de Paris a affronté samedi Tours et s'en est sortie avec un score de 3-1. Même score pour le Plessis-Robinson qui gagne son match face à Saint-Jean-d'Illiac. À l'issue de cette seconde journée, Paris se hisse à la première position à égalité avec Chaumont, Nantes, Rezé et Tourcoing. Chaque équipe totalisant 6 points. L'équipe de Montpellier, Poitiers, le Plessis-Robinson et Saint-Nazaire sont juste derrière avec 3 points. Et puis en dernière position, avec 0 point et aucun match gagné, se retrouvent 7 et Narbonne. Voilà pour ce journal des sports, Philippe.
Voilà, il y aura un journal qui sera comme ça toutes les semaines, plus complet. Puis on essaiera surtout beaucoup de parler des clubs parisiens, mais on étendra aussi aux autres sports. Allez, on va écouter Jeanne-Mas, c'est la deuxième pause musicale, toute première fois. Ensuite, notre ami Malik va venir nous présenter donc le sommaire de À bout du foot. On parlera beaucoup de Ballon d'Or ce soir. Et puis, il y aura le point foot avec notre ami du quotidien du sport, Stéphane Dezenclos. Allez, auparavant, la musique et Jeanne Masse. Voilà, eh ben j'accueille mon ami Malik ce soir. Ça va, Malik ?
Salut Philippe, oui, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde.
Ouais, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire au bout du foot ce soir.
Au bout du foot, dès 20h30, juste après mon Paris Sport sur mon Paris FM. On va évoquer naturellement en premier point ce qui s'est passé à Marseille hier. Fabio Grosso en sang. Le match aurait reporté. Le foot français est finalement très très embarrassé.
Ouais. Des voyous.
On va en parler au bout du foot, en long, en large et même en travers. Les coupes européennes, nos représentants s'en sortent avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? On va également l'évoquer. Et puis on va parler également du championnat espagnol, la Liga. Messi, CR7, Benzema, ils sont tous partis. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que la Liga cherche véritablement une star ? On va également en parler. Jude Bellingham, est-ce que c'est ce joueur-là qui finalement est l'arbre qui cache la forêt ? C'est dans au bout du foot. L'équipe de France, est-ce que vous souhaitez voir le jeune Warren Zaïre-Emery déjà appelé en équipe de France par Didier Deschamps dans la prochaine liste ? Également, ce sera au menu de au bout du foot. Messi, potentiel ballon d'or aujourd'hui même, 2023, on est le 30 octobre. Une cérémonie qui est presque sans engouement, selon nous. Est-ce que vous pensez que les distinctions individuelles dans le football sont encore d'actualité ? On va évoquer également ce sujet-là. Et puis en conclusion, on va parler des paris sportifs au niveau donc de l'Italie. Il y a 3 internationaux italiens qui sont dans la tourmente en ce moment. Quelles conséquences pour la suite de leur carrière ? C'est dans le programme également d'au bout du foot, c'est dès 20h30 dans la foulée de Mon Paris Sport.
Absolument, jusqu'à 22h. Voilà, merci. Allez, avant donc d'aborder le point foot, un petit mot de rugby qui a été oublié. On a oublié les femmes, on s'en excuse. Bon, elles ont été battues, c'est pour ça.
Oui, battues par l'Australie. Voilà, une première victoire contre la Nouvelle-Zélande il y a une semaine. Donc elle reste quand même mobilisée pour le classement et l'Angleterre qui est toujours première avec 2 victoires.
Oui. Ce tournoi, c'est tout nouveau.
C'est tout nouveau
tournoi.
Comme formule. Il y a trois niveaux de compétition, donc un peu avec 6 équipes dans chaque poule. Donc à voir. Après, on fera un bilan de cette compétition, mais c'est des beaux matchs. Là, moi, j'ai vu l'équipe de France contre l'Australie, vraiment un match impressionnant, avec des joueuses aussi impressionnantes, dont une australienne, un pilier australien qui met 3 essais dans le match. Ça fait très très rare, mais très 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 intéressant.
Très bien, allez, j'avais promis le point foot, on va le faire. Notre ami Stéphane Dezenclos, j'espère, n'est pas retenu dans les embouteillages. Donc c'était une semaine de Coupe d'Europe. Malik posait la question, est-ce que ça a été des bons résultats? Ça s'est pas trop mal passé, puisque en Ligue des Champions aucune équipe française n'a été battue. Lens, ça fait match nul 1-1. Et Lens, c'est bien pour l'instant, est toujours invaincu et reste deuxième de son groupe. Derrière, donc, Arsenal avec 6 points. Séville est troisième avec le PSV Eindhoven. Mais il y a une différence donc de goal average inférieure. Je vois mon ami Stéphane qui arrive. Il va pouvoir donc nous commenter le fait que Lens donc reste toujours invaincu en Ligue des Champions. Et puis le Paris Saint-Germain qui a battu le Milan AC, donc 3-0. L'affront de Newcastle est donc effacé. Le PSG, donc après la victoire de Dortmund à Newcastle 1-0, est en tête avec 6 points devant Dortmund et justement Newcastle 4 points, mais un goal average supérieur pour Newcastle et 4ème le Milan AC 2 points. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Ça va? Juste pas trop de monde sur la route, ça a été oui, justement. Voilà. Bon, c'est bien, tu prends juste le truc. Lens toujours invaincu, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Deuxième donc de sa poule derrière Arsenal, puisque Arsenal a 6 points et Lens 5 points. Et le PSG qui s'est réhabilité en battant assez largement et tout à fait logiquement donc le Milan AC 3-0.
Tout à fait, pour Lens ça va clairement jouer lors du prochain match aux Pays-Bas, c'est clair et net quoi. Et il tangue un peu mais il résiste quoi. Il résiste, ils ont fait un super match européen contre Lens, mais en général c'est vrai que ce qui est surtout bien, c'est en général le comportement des clubs français en Coupe d'Europe. On en parlait la première journée, c'était vraiment super. Là, celle-ci, c'est bien aussi quand même, quoi. Donc bon, c'est vrai qu'on avait des équipes qui jouent à domicile, je crois que c'est 4.
Alors justement, on va y venir à la Ligue Europa, puisque sur les 4 matchs, 3 équipes se sont imposées, une seule a été battue. Marseille s'est imposée devant l'AEK Athènes 3-1, Marseille est en tête de sa poule avec 5 points. Donc Rennes est allé gagner chez les Grecs du Panathinaikos 2-1, Rennes est en tête avec 6 points de sa poule, et puis Lille a battu en Ligue Europa Conférence Bratislava 2-1, Lille est en tête de sa poule avec 7 points, sauf la seule petite déception, si c'en est une, hein. C'est Toulouse qui a pris l'eau à Liverpool 5-1. Toulouse est deuxième à égalité avec l'Union Saint-Gilloise, mais un goal average donc inférieur par rapport à l'Union Saint-Gilloise. Donc finalement, les résultats sont pas si mal. Hein. Une seule défaite sur quatre équipes engagées en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, et puis aucune défaite en Ligue des Champions.
Tout à fait. Surtout qu'après, il faut voir, si on veut qu'on parle des résultats, il faut regarder un petit peu à ce à quoi on aurait été en droit de s'attendre si on en avait parlé il y a un mois ou deux mois. Ouais, mais... C'est-à-dire que Toulouse qui perd à Liverpool, donc c'était évident, c'était, que ça soit 5-1 ou 1-0. Ouais. Bon, après, on n'aurait pas forcément donné Lens avec un nul contre le PSV. On n'aurait pas, surtout, je pense pas, peut-être pas donné la victoire de Rennes en Grèce. Et donc c'est déjà ces deux résultats, je pense qu'ils sont un peu au-dessus. Et puis même à la limite aussi celle de Marseille, vu le contexte actuel, quoi, avant ce match et tout, elle n'était pas non plus gravée dans la pierre. Donc c'est sûr que c'est, moi je pense que c'est un très bon résultat. Du coup, on revient très très fort à moins d'un point à l'indice.
Oui, l'UEFA, ça se resserre avec les Pays-Bas. Ouais.
Donc voilà, puis de toute façon, ça va certainement, ça va certainement pas tarder à s'inverser les positions.
Voilà, mais enfin, on a un petit peu tendance parfois à être un petit peu trop pessimiste, et puis finalement, c'est pas si mal que ça.
Non, c'est vrai, maintenant, on est pessimiste, c'est vrai qu'on est pessimiste, mais c'est aussi le passé récent des équipes. Des clubs français en Coupe d'Europe qui nous amène à ça. C'est une culture, c'est une façon d'aborder les compétitions. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression que ça bouge un petit peu, et donc ça peut être effectivement hyper, hyper intéressant.
Allez, on passe au championnat. Alors, on voulait parler de ballon. Malheureusement, il y a eu ces incidents entre Marseille et Lyon. J'ai dit les mots voyous et je continue à le dire, hein, mais enfin bon, voilà. Malheureusement, le match n'a pas pu avoir lieu. Juste un petit mot, Stéphane.
Bah, c'est des mots, j'en ai pas vraiment. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une attaque complètement extérieure du club, ce vers quoi on tend, en tout cas pour l'instant, en tout cas, tous les premiers témoignages le disent. Donc maintenant, après, ça peut être un fait divers qui rejoint le foot. On a toujours dit que le football, il rassemblait, en fait, il ressemblait, il était un reflet de la société et tout ça. Donc,
c'est exactement ça.
C'est un reflet de la société. C'est une attaque comme il pourrait y en avoir peut-être contre les biens des gens, contre des gens dont on est jaloux, des gens qu'on n'aime pas. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça.
Je suis entièrement d'accord.
On n'aime pas les gens, on va les attaquer, on va être violent avec eux et tout. Alors, bon, c'est résumé un peu de façon simpliste, hein, ce que je dis, mais bon.
François ?
Oui, il y a près de 40 ans, en 84, notre excellent confrère de l'équipe Gérard Etcheverry avait écrit un livre, Nous sommes tous des hooligans, où il analysait le phénomène donc hooligans au Royaume-Uni, et en disant ça pourrait très vite arriver en France, ben on y est.
Allez, on va s'intéresser quand même au terrain. Nice qui a battu, donc qui est allé gagner à Clermont 1-0, victoire de Reims devant Lorient 1-0, Lens qui a écrasé Nantes 4-0, et puis Brest-Paris, match à but, hein, victoire du PSG 3-2 à Brest, victoire aussi de Lille qui fait tomber le leader Monaco 2-0. Donc pour l'instant, Nice est en tête avec 22 points, devant le PSG 2e 21 et 3e Monaco 20 points, Lille est 4e avec 18 points, Reims 5e 17 points, et puis ferme la marche Metz avec 16e avec 9 points, 17e Clermont 5 points et Lyon 18e 3 points. Mais ce qui est intéressant, Stéphane, dans ce classement, c'est qu'il y a, je crois, seulement 3 points entre le 8e Rennes et puis donc le 16e Metz.
Ouais, tout à fait, ouais. Donc ça peut aller très vite, et notamment par exemple pour une équipe comme Rennes.
Ouais, Rennes, Marseille, Lens, ils ont 12 points, Montpellier, Toulouse, Le Havre et Strasbourg 11 points, et ensuite Lorient donc 10 points, et ensuite on a Metz.
Alors Marseille a son match effectivement d'hier qui a pas été joué, mais après c'est vrai que ça permet quand même de voir aussi, bon, on connaissait Lyon, la grosse déception de ce début de saison, on s'y attendait un peu, hein, déjà même par rapport à leur saison dernière, mais on va peut-être commencer à parler assez rapidement de Rennes, un peu plus de Rennes, parce que Rennes c'est quand même, pour l'instant ils tiennent debout avec un parcours, ils sont en tête de leur groupe en Ligue Europa, donc mais bon, je serais pas pour ma part surpris de voir que Bruno Genesio soit le troisième entraîneur de Ligue 1 à quitter son poste d'une manière ou d'une autre.
Ouais. En tout cas, c'est un championnat qui est compact quand même.
C'est sûr que c'est un championnat qui est
ça le prouve.
Compact,
hein, voilà, deux matchs et puis tout change.
Deux victoires de suite et vous pouvez repasser devant assez facilement. Ce qui explique d'ailleurs le retour d'un club comme Lens, hein, qui je crois. Il doit être 9e,
ouais,
non,
c'est ça, 9e, c'est ça, c'est ça. Ils sont 8e égalité avec Rennes et Marseille.
Voilà, 8e égalité avec Rennes et Marseille. Alors bon, toujours pareil, Marseille a ce match en moins, oui. mais quand même, quoi. Donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que si on veut analyser un petit peu la Ligue 1, on a un PSG qui n'est pas flamboyant.
Et qui est 4e seulement à 4 points,
non,
du leader.
Non, le PSG, ils sont premiers. Là, je parle de Paris, là,
Oui, PSG, ils sont deuxième,
pardon.
Mais il y a 4 points entre le 4e et le 1er.
Ils sont deuxième à 1 point parce qu'ils
ne
sont pas flamboyants, mais parce que aussi à côté, les équipes, elles avancent quand même pas non plus vite. Quoi,
hein. Deux défaites pour Monaco. Hein.
Voilà, Monaco qui perd son deuxième match. Bon, c'est vrai que c'est Lille. Hein. Lille, c'est quand même solide. Donc, il perd son deuxième match et qui se retrouve donc
quatrième.
Quatrième, éjecté de la première place. Nice qui est pour l'instant très très pragmatique, très très efficace, très solide, sans être non plus extraordinaire, mais qui est bien, qui mérite largement d'être là où il se trouve. Et puis donc voilà. Puis derrière, on a c'est vrai que la victoire d'hier un peu tiré par les cheveux des Parisiens de samedi, d'hier dimanche, des Parisiens à Brest, elle leur fait du bien quand même, parce que sinon ils seraient encore plus loin que ça de Nice, et que là ils restent à la portée de Nice. Maintenant, ça avance quand même tout doucement. Je sais pas ce que les gens pensent, mais c'est la Ligue 1, c'est un peu pâteau quand même, quoi.
Allez, en Ligue 2, par contre, l'écart s'est un petit peu rétréci. 12e journée, puisque Laval avait été battu la semaine dernière par Saint-Etienne 1-0 à domicile. Ils sont allés faire 0-0 à Amiens. Bordeaux-Rodez, ça rappelle des choses. Et ben, ça s'est bien passé, là, cette fois-ci. Deux partout entre Bordeaux et puis Rodez. Victoire de Dunkerque à Auxerre 1-0. Et puis Concarneau qui a battu l'AC Ajaccio 2-1. Et l'autre Paris FC qui fait 2-2 à domicile devant 3. Pour l'instant, donc, toujours Laval, 26 points devant Angers, 2e. Mais il n'y a plus que 3 points d'écart, 23 points. Troisième Auxerre, 21 points. Le Paris FC évite juste la relégation. Pour l'instant, ils sont 16e avec 11 points. 17e, 3, 10 points. 18e, Valenciennes, Dunkerque, 9 points. Et c'est que Villiers-Rouen qui ferme la marche avec 7 points.
Voilà, avec surtout, je pense, l'info du week-end dont on pourra avoir confirmation seulement ce soir en fin de soirée. C'est éventuellement le grand retour de Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne joue ce soir. Si Saint-Etienne joue à domicile contre Angers et bat Angers, ils reviennent à la deuxième place, à 2 points de Laval, quoi. Donc c'est quand même, quand on regarde le parcours des Stéphanois sur ces 18 derniers mois en Ligue 2, ça serait quand même vraiment assez exceptionnel, je trouve, en tout cas au niveau du parcours, même en début de saison. Donc Laurent Batters a été menacé, hein. Ils ont commencé timidement, là j'ai pas exactement les chiffres et tout, mais ils ont commencé timidement les premiers matchs Saint-Etienne, hein. Et c'était chaud, puis ça a basculé, puis là ils gagnent tout, quoi. Il y a quoi, presque tout en tout cas. Et s'ils gagnent ce soir, alors c'est là qu'on va voir, parce que c'est quand même du solide, hein. Angers deuxième, ils sont
imaginez Saint-Etienne qui remonte et Lyon qui descend.
Ça serait incroyable.
Voilà, allez, il n'y avait pas de national ce week-end, c'était la Coupe de France. Versailles a été éliminé, hein, battu par Fleury-Mérogis 1-1, 5-4 au tir au but. Donc ça en est fini pour Versailles, comme ça en était terminé pour le Paris Atlético. Et puis pas de journée chez les féminines, pour cause, l'équipe de France donc poursuit sa belle moisson de victoires en Ligue des Nations. 2-1 victorieuse en Norvège, l'équipe de France en tête avec 9 points, devant l'Autriche 4 points, le Portugal également 3 points, 3e et 4e, donc la Norvège 1 point.
Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon. La Norvège, on a un peu de mal à s'intéresser à la Ligue des Nations en règle générale, mais là les écarts, je pense, sont assez énormes quand même entre.
Bon, c'est mieux que des matchs amicaux, hein. C'est comme en foot,
c'est
pareil.
Il faut rappeler ça, effectivement, hein, que ça a été créé à la base uniquement pour faciliter la possibilité aux clubs, aux nations de rencontrer des adversaires, puisque tout est fait pour eux, quoi. En fait, ils n'ont plus besoin de chercher, de payer les adversaires et tout ça. Donc, voilà, maintenant, on a du mal déjà à s'intéresser à la Ligue des Nations chez les garçons. Et c'est pas parce que c'est des filles, hein, c'est juste parce que les différences de niveau, elles sont quand même assez. Elles sont quand même encore plus grandes. Alors, bon. Que donner comme importance à une victoire de la France sur la Norvège dans le cas présent.
Sauf pour Hervé Renard qui veut garder la dynamique de la victoire, lui.
Voilà, tout à fait.
Allez, on va finir avec le Ballon d'Or. Messi va probablement décrocher son 8e Ballon d'Or. Hein,
c'est sûr.
Je pense que c'est mérité.
Ah, moi je fais partie des gens qui pensent que c'est 100-200% mérité, quoi. C'est impossible de donner à quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'est impossible. Alors le problème, c'est qu'en France, on va en parler tout à l'heure avec notre ami Malik, mais en France, on est tellement si on se l'avoue ou pas, j'en sais rien, mais furieux d'avoir vu l'Argentine battre l'équipe de France et nous empêcher d'avoir donc il y a cette petite animosité. Ensuite, on est influencé par les journalistes qui Messi il marche, Messi ceci sur tous les réseaux sociaux. Et puis quand par contre, si
faut pas taper le confrère, hein.
Partout ailleurs, vous regardez quoi, j'ai un meilleur gagne la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde. En plus, il gagne la Coupe du Monde avec une équipe qui a rien d'extraordinaire. Qui n'a rien d'extraordinaire, cette équipe, qui c'est vraiment lui qui guide l'équipe vers la Coupe du Monde. Après, si on veut regarder même ses stats, je crois qu'il est à 41 actions décisives sur 41 buts cette saison, sur 41 matchs, pardon, cette saison. Donc voilà, maintenant, effectivement.
Non, puis Stéphane, on sait que les années de Coupe du Monde, hein, nos confrères qui votent, hein, il y a 100 journalistes de la presse étrangère qui votent, un par nation. C'est le rédacteur en chef de France Football qui vote pour la France, donc Vincent Garcia. On sait que les années de Coupe du Monde, c'est toujours la Coupe du Monde qui prime.
Ouais, c'est toujours sauf les trois dernières.
Pourquoi
les deux dernières. 2018, c'est la France qui gagne, c'est Modric
mais il gagne la Ligue des Champions maintenant.
Ah non, mais voilà. Donc, 2014.
Alors ça peut être Varane, c'est vrai.
2014, c'est l'Allemagne qui gagne.
Ouais, et pourquoi Parce que ce n'était plus des journalistes qui votaient. C'était gens du métier.
Et 2010, non, mais je dis pareil. Les trois dernières, 2010, 2014, 2018, c'est pas les joueurs. Après, il faut savoir aussi que
c'était plus des journalistes qui votaient entre 2009 et 2016.
Et comme tu l'as dit, Philippe, c'est un journaliste par pays.
Oui.
Je crois que c'est 157 pays.
100 maintenant. Ils ont réduit à 100.
Et l'Asie, par exemple, tous les pays d'Asie, ils sont en admiration totale, à genoux. Messi, c'est leur idole, quoi. Donc déjà, tous les pays d'Asie, ils votent pour Messi. Donc déjà, par rapport à ça, on risque même d'avoir des surprises dans les résultats. Genre un 60%.
C'est-à-dire Messi qui va écraser
70%. Comment
ouais. Messi ouais, qui voilà. va, ouais. Donc, ouais. Messi, Haaland, Mbappé, c'est le tiercé.
Moi, je saurais pas dire. Ça serait peut-être mon tiercé, mais je pense que peut-être que Mbappé sera pas sur le podium. Peut-être qu'il sera pas sur. Je sais pas. Il y aura peut-être un. Bien que, effectivement, je sais pas. J'avoue, je sais pas trop où je pense. Messi, Haaland. Même à l'an deuxième, je ne parierai pas.
Il a fait triplé pourtant. Hein.
Ah ouais. Mais bon, même ça, je ne le parierai pas. Moi, mais bon.
François ?
Oui, Messi qui n'était pas dans les 30 l'année dernière.
Ah oui.
Donc il faut le rappeler. Ouais. Bon, moi je ne sais pas, au PSG, il n'a pas été exceptionnel. Effectivement, il y a eu l'année de la Coupe du Monde, sauf le premier match contre l'Arabie Saoudite. Et puis bon, aux États-Unis, là, son équipe a été éliminée un peu d'une manière prématurée.
Non, mais il gagne sur la Coupe du Monde.
Je pense à Island qui a quand même gagné. Ouais. De toute façon, la Norvège, il ne pouvait pas gagner la Coupe du Monde puisque voilà, c'est une équipe bien trop faible pour aller très loin en Coupe du Monde. Mais sinon, il a tout gagné. Donc, la logique voudrait quand même que ce soit un joueur de ce type plutôt que se focaliser toujours sur la Coupe du Monde pour désigner
le ballon d'or.
Oui,
mais c'est le vote du journaliste. C'est comme ça, chaque année de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qui est
prioritaire. Oui, mais c'est pas, je partage pas cette avis, pourquoi je vous l'avais compris.
Ça a toujours été comme ça.
Hein. Oui, mais en plus, c'est pas parce que c'est n'importe quel joueur dans la Coupe du Monde.
Ah non, non.
C'est quand même le joueur qui a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine.
Faut être
honnête. Messi, il a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi et à un but près, il doit être deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc il a fait une Coupe. En plus de ça, il l'a gagné, mais mais il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc je pense que je suis désolé, mais moi sur le, c'est quand même un trophée individuel. Et Erling Haaland, par exemple, qui a effectivement fait une saison record de buts et tout ça, qui a gagné des titres, demi-finale, finale de Ligue des Champions, il est fantomatique, quoi. Donc en plus de ça, lui, on peut pas dire ici, quelqu'un peut pas dire il a aidé beaucoup puisqu'il a été meilleur buteur de la compétition. Erling Haaland a fait gagner la Ligue des Champions à Manchester City. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Donc, par contre, on peut dire Messi a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait acceptable que les gens préfèrent quoi qu'on dise ouais Haaland, mais on est ébloui par ses stats, par tout ça, mais bon, en fait moi je pense quoi, je pense que c'est amplement mérité, c'est largement mérité quoi.
Très bien, et eh ben on fait la prolongation dans l'émission de Malik, donc au bout du foot qu'on va retrouver donc dans quelques minutes à partir de 20h30. Tu restes avec nous pour la fin, hein. Ouais. T'as suivi le rugby quand même?
Bien sûr. Ouais.
Voilà, parce que bon, l'Afrique du Sud, ils ont gagné aussi, sans être très brillant. Ouais, ouais. Comment le quotidien du sport a vécu cet événement?
Notre cœur de cible, hein, vraiment à 80%, 75%, je vais dire, c'est avant tout le football, quoi, ou des interviews, des choses comme ça. Mais on l'a quand même vécu beaucoup avec tout ce qu'on a fait avant sur les joueurs et tout. Après, dans le match,
oui, parce qu'il faut dire qu'il y a eu un portrait de tous les 50, je crois, anciens grands joueurs d'équipe de France de rugby,
de l'équipe de France qui sont passés sur ce qu'est le rugby. En ce moment, il y a beaucoup de choses en ce moment aussi sur, ou même pendant la Coupe du Monde, mais on continue même maintenant avec Antoine Dupont sur le joueur, ce qu'il est, ce qu'il représente, son parcours, ça vient tout. Les stars de l'équipe de France de rugby, elles ont été aussi bien sûr beaucoup traitées. Mais on a été beaucoup moins actifs sur les résultats, le quotidien tout, parce que le quotidien tout, c'est, je pense, je suis pas un grand spécialiste, mais c'est Midi Libre ou l'équipe, quoi. Si quelqu'un a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe de
France. Midi Olympique. Hein.
Midi Olympique.
Ouais. Le middle, disait Rubiman. Ouais.
Le jaune.
Midi Olympique, ouais. Et voilà. Là, comment, je ne suis pas un grand connaisseur. Et voilà, maintenant, après, je ne suis pas sûr, moi, juste de ce que j'ai vu, je remarque, je ne suis pas sûr que...
Non mais on a senti quand même
qui joue le mieux, mieux au rugby qui est gagné.
On a vu des coupes du monde de foot, c'était pareil, hein, c'était pas l'équipe qui jouait le mieux, hein.
Pas très longtemps,
ouais,
hein,
non mais voilà, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle, ouais, ouais.
Et mais bon, apparemment là on a passé par exemple aujourd'hui à la réaction du capitaine de l'Afrique du Sud là, qui explique qu'ils ont quand même mis toute une ambiance, un état d'esprit en place pour et que c'est ça qui les a motivés, qui se sont battus pour leur pays,
un collectif,
qu'ils étaient avec leurs enfants, que le staff et tout, ils avaient les enfants, il dit même on voyait les enfants courir dans les couloirs, tout, c'était une ambiance extraordinaire, et on s'est battu pour la famille, pour tout ça.
Ouais, Julien, c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les commentaires. Ils se battent pas pour gagner un match, ils se battent pour un pays. Les Africains, après les Sud-Africains, l'ont dit dans le commentaire, ça va beaucoup plus loin, quoi.
Mais c'est une
histoire.
C'est
un petit peu comme le Brésil au foot, hein.
Oui, c'est une histoire. L'Afrique du Sud aussi, ils ont été quand même exclus pendant un paquet de temps, en fait, au niveau international, sur les différentes compétitions. Voilà, il y a un état d'esprit, et puis ils ont cette expérience de ces grandes compétitions. Maintenant, c'est quand même quatre fois champion du monde sur cinq finales jouées. C'est quand même incroyable. Quoi.
Quatre finales jouées.
Ouais, quatre finales. Quatre
ils ont perdu
quatre,
aucune finale.
Ils ont perdu aucune finale.
Ouais, ouais.
Non.
Donc,
c'est voilà. C'est
ils en ont deux fois devant les Blacks et deux fois devant les Anglais. Donc voilà. Et deux victoires en France. Alors ici. Hein.
C'est ça. Non. Ouais. Franchement, bravo à eux.
Ouais. Olivier, est-ce que vous faites des matchs de jumelage avec d'autres équipes?
Non, c'est spécialement pas avec d'autres pays, c'est
ça?
Ouais, ça nous,
il y a des clubs qui le font, hein, qui sont
avant le Covid. Avant le Covid, on allait assez souvent en Italie, à Florence. Ça s'est un peu perdu. Là, cette année, on essaye d'aller parce qu'en fait, on fait partie de la Fédération des Aveyronnais.
Ah oui, je voulais dire, j'ai vu ça. Pourquoi
Bah, c'est historique.
Ça aussi, en préparant
je,
l'émission,
là, je ne connais pas la jeunesse de l'histoire, mais depuis le tout début, voilà, on est
le premier président était sûrement Aveyronnais,
fait...
donc.
Peut-être, mais ce qui fait qu'il y avait beaucoup de jeunes Aveyronnais qui montaient à Paris et qui venaient au RCP 15.
Ah ouais.
Ouais. Donc ouais. On essaie d'aller faire un tournoi dans l'Aveyron, mais
ah bah
c'est
la moindre des choses. Hein. Ouais, pour revenir sur ça. En tout cas, merci Olivier. Vous avez été le dernier des clubs qu'on a invité pendant toute cette période. Thierry, merci d'être venu de Rambouillet. Tu connais Stéphane hein?
Non, pas du tout. Oh. J'avais vu sur les photos.
Ah oui, vous avez dû vous côtoyer à une certaine époque.
Certainement,
oui. Ah oui, hein, ouais, ouais. Bon, c'est fini le rugby maintenant.
Moi, juste pour terminer, ouais. Moi, j'espère qu'un jour on aura le nom France, enfin, le pays France gravé sur cette coupe.
Ouais, hein, bien sûr.
Parce que quand j'ai vu gravé en direct, là, je me dis c'est trompé trop grave, c'est pas possible.
Ah, et non, et non, non. Bah, peut-être dans 4 ans, on verra. Ça sera en Australie dans 4 ans. Julien, énorme merci. On s'est régalé, on a pris des pieds.
C'est top. Mais je te remercie.
Ouais, ouais, non,
merci pour ton accueil. Franchement,
ouais.
C'était une première expérience pour moi.
Ouais, ouais, ouais.
Merci beaucoup. Voilà. Et puis je tiens à faire un petit coucou quand même à mes beaux-parents qui sont de Bayonne et qui nous écoutent depuis le début.
Ah, bien. Depuis ils sont contents. Début. Ça leur plaît l'émission.
Eh ben oui, ça leur plaît. Ils m'envoient des petits textos.
Ah, bah,
et puis
bien,
mes petits neveux aussi. Ouais. Voilà, les Adrien, Raphaël.
Ça s'est pas bien passé. Bon, on ne veut pas trop. Hier, ça s'est passé. Comme ton club a perdu à Bayonne.
Un peu dur. C'est ça. C'était un peu la guerre entre les deux.
Très bien.
Voilà. Petit coucou à tout le monde.
Allez. Merci François, énorme merci.
Bah, merci hein,
pour Luc Carboura, Mazo, et puis pour Jean Abiou.
Bah, vous
voilà.
Êtes disons le pendant radio de Rencontre à 15, c'est-à-dire voilà. Inviter, mettre un éclairage, un projecteur sur les petits clubs.
C'est sympa. Merci Stéphane. Toi, t'enchaînes avec Malik. Hein. Et puis je vais remercier Laura pour son journal des sports. Voilà.
Oui, merci beaucoup.
Et puis merci Jason aussi hein, pour avoir été donc à la réalisation de cette émission. Allez, Esprit Noir, bonsoir Paris, c'est la musique sur laquelle on termine dans un instant. Donc, notre ami Malik au bout du foot. Belle soirée à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine.
Si. Go, let's go. Cousin, j'emmerde les bureaucrates, je suis dans un Clio 4. Je mène un train de vie de psychopathe avec les flics au pattes. Je regarde ma vie qui vire au crâne, la ville qui vire au crack. On pousse des grammes, des kilogrammes, le pilon pile au crâne. Au check, c'est des semi-auto, des sables de Kyoto. C'est soit la pole ou soit la tôle, mais bien ton clignotant. Au check, c'est des semi-auto, les cons des flingues. Nous, on fait des signes de gang pour que les filles se gangent. J'ai le ton Pérignon, original, ton dada. Mal alpha, pas de salsa. KKK, on les shoot comme des stars. Au Pessara, son Alcharas, que les clients s'arrachent. On navigue en jean et jean comme Zinedine. On pousse les ballons, j'ai le bras long. Je suis un vin de long, rive un étalon. Un piton 3-5-7, soit je replace un 7, soit j'en place 7. À la porte, j'en paierai sans me faire opérer. Faut pas que les flics enquêtent, moi je mets l'équipe en tête. Des coups de couteau et putain bête, c'est un des types moins bêtes. Moi j'aime les flics coquettes, celles qui font le tour du perron. J'ai sauté quelques verrous, je vais manger du mérou. Classe à faire en direction du Pérou. Je consomme pas l'apéro. Sur le terrain, je passe le 10 et surveille les latéraux. Je suis un terreau. Un putain d'héros, un truc qui fait l'effet d'une bombe
entre les pleurs, les drames, comme les keufs qui se baladent, qui changent comme d'habitude. Tagué pour écrire son best, vu que lui reste en place, rien qui bouge comme d'habitude. Dans ma mano cry, dans ma mano cry, tu vivras d'autres lives, tu vivras autre peur. Ma mano cry, tu vivras autre peur. Il y en a d'autres lives, tu vivras autre peur.
Si, papi chulo, huno. Au quartier, je fais ce qu'il a d'arène quand je la vois flex du boulot. Segundo, je veux le mundo. Et des potos dans les puntos, flow boulot. J'aime le crime, la vitesse, le mieux chante ma tristesse. Moi je rêve de voitures qui blessent, celle avec les toitures qui se baissent. Dieu m'a donné la foi comme Ophélie. Mick Millie comme un Philly, cousin où tu milies. J'rap freestyle, flow cristal. J'suis dans la rue avec mes gars de l'institut, ça recherche des œufs à qui tu. Mais j'ai pas de job, j'suis en 3 quarts. Pendant que les 3 quarts de mes potes d'Alger ou Dakar font des squats au placard. J'suis passé sous les radars, découpe des têtes en radio. J'suis avec style fraîche. C'est mon rush pour éduquer, fait mon cœur. On fera des hits détournés comme les rockers. NEC le moteur.
J'ai le sourire quand dans le tien j'encaisse.
Faut gérer ma zone, ma bande, à la base on est nia. Maintenant on vend de la ria, toute la dia, mamma mia.
Entre les pleurs, les drames, encore les keufs qui se baladent, qui changent comme d'hab.
Mon Paris FM.